Chapitre 20. Si la résidence de Delphine n'était pas estampillée du label « mauvais goût », c'était pour éviter la redondance. La tendance générale était au blanc. Un blanc immaculé, intérieur et extérieur, colonnes de faux marbre blanc, statues nues et blanches, briques blanches, piscines blanches, canapés blancs sur des tapis blancs et murs blancs. La seule tache de couleur était l'orange de la chemise de Del.
Del, chérie, tu viens de coucher ?
Sa femme, Daria, Madame Delphine, la troisième du nom, était de 20 ans sa cadette. Elle ne portait que du blanc ultra moulant et avait la plus grosse poitrine, le plus gros cul et les plus grosses lèvres que l'argent pouvait offrir. D'accord, elle n'avait pas l'air vraie. Mais c'était comme ça que Del aimait ses femmes à présent, des personnages de bande dessinée aux formes et aux traits outrés. D'aucuns trouvaient ça monstrueux. Pour Del, c'était tout simplement sexy.
Mais pas tout de suite.
Tu es sûr ?
Daria portait un peignoir de soie blanche et rien dessous, la tenue préférée de Del. Il aurait souhaité que le frémissement familier, compagnon de toute une vie, sa malédiction si on veut, qui lui avait coûté sa chère Maria, la mère de Carlton, la seule femme qu'il ait jamais aimée, revienne sans l'aide d'une certaine pilule bleue. Mais pour la première fois de son existence, il n'en éprouvait ni le besoin ni le désir.
« Va te coucher, Daria !»
Elle s'éclipsa, probablement soulagée, pensait-il, de pouvoir juste regarder la télé avant de sombrer grâce au cocktail de vin et de médicaments qui l'aidaient à passer la nuit. Finalement, toutes les femmes étaient pareilles, sauf Maria. Del se cala dans le fauteuil de cuir blanc. Le décor blanc était l'œuvre de Daria. Elle prétendait que cela représentait la pureté, l'harmonie, l'aura de la jeunesse et autres foutaises New Age du même genre. Quand il l'avait rencontrée, Daria portait un bikini blanc et il n'avait eu de cesse de le souiller. Mais maintenant, toute cette blancheur commençait à lui taper sur les nerfs. Il avait envie de couleur. Il avait envie de ne pas se déchausser en entrant dans la maison. Le vieux canapé vert foncé lui manquait. Une maison entièrement blanche est impossible à entretenir. Une maison entièrement blanche vous prépare à l'échec. Del regarda par la fenêtre. Il n'était pas un gros buveur. Son père, un immigré irlandais, avait tenu un petit pub à Ventnor Heights. Del y avait passé toute son enfance. Quand on voit ça de près, les ravages causés par l'alcool, on n'est pas prêt de suivre cette route-là. Ce soir pourtant, il avait sorti une bouteille de son breuvage favori, le Macallan Single Malt, car il avait besoin de s'étourdir. Del avait fait fortune. Il avait débuté dans la restauration pour se rendre compte très vite que ce n'était pas le bon moyen de se faire de la thune. Il s'était donc recyclé dans les fournitures pour restaurants, nappes, assiettes, couverts, verres et tout le toutim. Il avait commencé petit pour finalement devenir le plus gros fournisseur de tout le sud du New Jersey. L'argent ainsi gagné, il l'avait investi dans l'immobilier, principalement des garde-meubles à la périphérie de la ville, et du coup, il avait touché le jackpot. Tout cela n'avait aucune espèce d'importance. C'était peut-être trivial, mais la seule chose qui comptait en ce moment, c'était Carlton, son garçon. Sa disparition pesait sur Del, le consumait, l'empêchait de respirer. Il regardait par la fenêtre. La piscine avait été recouverte pour l'hiver, mais il revoyait son fils nager là-dedans avec ses copains, jurer avec un peu trop de désinvolture, draguer la première fille mignonne qui posait les yeux sur lui. Certes, son fils unique, n'était pas un paragon de virilité. Il passait trop de temps à se pomponner, trop de temps au club de fitness, à se faire épiler le corps et les sourcils, comme si un homme, un vrai, se souciait de ces choses-là. Mais quand son fils lui souriait, qu'il le prenait dans ses bras et l'embrassait sur la joue, comme il le faisait toujours avant de sortir en boîte de nuit, la poitrine de Del se gonflait d'un sentiment tellement réel, tellement merveilleux et vivant qu'il y voyait la véritable raison de sa présence sur cette terre. Or, voilà que, pfft, son fils, la seule chose qui comptait vraiment dans sa vie, la seule chose vraiment irremplaçable, avait disparu. Qu'était-il censé faire ? Attendre, les bras croisés, remettre le sort de son unique enfant entre les mains de la police, respecter les règles dans ce royaume de la triche qu'était Atlantic City ? Quel genre de père fallait-il être pour se conduire de la sorte ? Le rôle d'un père était de protéger son enfant coûte que coûte. Il était minuit. Dell tripota la chaîne en or autour de son cou, le médaillon de Saint-Antoine que Maria lui avait offert pour leurs 10 ans de mariage. Saint-Antoine, avait-elle expliqué, était le saint patron des choses perdues.
« Ne nous perds jamais, ok ?»
avait-elle dit en le nouant autour de son cou. Puis elle en avait mis un autour du cou de Carlton.
« Ne nous perds jamais, Carlton et moi. »
Comme si elle avait lu dans l'avenir. Depuis la chambre, on entendait la télévision. Daria était en train de regarder leur nouvel écran plat de 53 pouces en 3D avec l'effet Dolby Surround. Seule dans son luxueux cocon de blancheur, Dell se sentait impuissant. Impuissant, bien nourri, bien au chaud, pendant que son garçon était quelque part dans le noir et le froid. Prise au piège, en train de pleurer ou de souffrir atrocement. Peut-être qu'il saignait ou appelait son père au secours. Quand Carlton avait 4 ans, il avait peur de monter sur le toboggan des grands dans l'air de jeu. Dell l'avait chambré, allant même jusqu'à le traiter de bébé. Sympa, non ? Carlton s'était mis à pleurer, ce qui l'avait énervé encore plus. Finalement, pour faire plaisir à son père, ou pour le faire taire, Carlton avait commencé à grimper sur l'échelle. Il y avait trop de monde là-dessus. Les gamins se bousculaient pour monter. Carlton, le plus petit sur ce toboggan, avait perdu l'équilibre. Dell revoyait encore cet instant où, les bras croisés, il avait vu son fils tomber en arrière, sachant alors même qu'il se précipitait vers lui, qu'il n'arriverait pas à temps. Que lui, son père, avait non seulement humilié l'enfant et provoqué la chute, mais qu'il était incapable de le sauver. Le petit Carlton s'était mal reçu, le bras rabattu en arrière comme une aile d'oiseau. Il avait hurlé de douleur. Dell n'avait jamais pu oublier ce sentiment d'impuissance ni cet horrible hurlement. Aujourd'hui, il résonnait en lui, obsédant, lui déchirant les entrailles tel un éclat d'obus. Il but une gorgée de whisky. Derrière lui, quelqu'un s'éclaircit la voix. Normalement, Dell était du genre à sursauter au moindre bruit. Maria ne manquait pas de le souligner. Il avait le sommeil léger et ses nuits étaient peuplées de cauchemars. Maria comprenait. Elle l'enlaçait, lui murmurait à l'oreille, l'apaisait. Il n'avait plus personne pour le réconforter à présent. Daria était capable de dormir pendant un concert de rock. Aujourd'hui, Dell devait affronter ses terreurs tout seul. Dieu qu'il avait aimé Maria. Il avait été si heureux en ce temps-là, dans leur maison décrépite de Drexel Avenue. Mais les démons s'étaient emparés de lui, et Maria n'avait pas accepté. Avec le recul, cela n'avait aucun sens. On pouvait être accro à l'alcool, à la drogue, au jeu. On pouvait perdre sa maison, sa santé, son argent. On pouvait être agressif, voire violent. Mais si la cause en était, mettons, l'alcool, les médocs ou les canassons, votre entourage comprenait votre douleur. La femme de votre vie restait à vos côtés et vous aidait à vous en sortir. Mais si votre addiction, c'était le sexe, si vous aviez les mêmes besoins que d'elle que n'importe quel homme, bon sang, depuis l'aube de l'humanité, des besoins inscrits dans l'ADN masculin qui ne faisaient de mal à personne contrairement à la drogue ou à la boisson, sauf si on était jaloux. Ça, personne ne voulait le comprendre et on perdait tout. C'était sa faute au fond. La faute de Maria. Elle avait élevé leur gamin sans la présence du père sous le toit familial. Elle avait été incapable de comprendre ou de pardonner ce qui était l'essence même de l'homme. Il l'avait aimée. Comment avait-elle pu jeter leur amour aux orties ? Bonsoir, monsieur Flynn. Le son de cette voix refroidit l'atmosphère de la maison. Dell Flynn se retourna lentement. Ken et Barbie lui sourirent et la température chuta de 10 degrés de plus.
Vous avez retrouvé mon fils ?
Pas encore, monsieur Flynn. Il restait là, sans bouger, comme s'il venait de terminer une chanson. C'était quoi déjà cette émission débile que ses parents regardaient toujours au moment des fêtes? La famille King. Qu'était-il devenu au fait? Et pourquoi la vue de ces deux-là lui faisait penser aux choses les plus foutraques?
Alors, vous voulez quoi?
Nous avons un dilemme, monsieur Flynn, dit Ken.
Un dilemme moral,
ajouta Barbie. Dell connaissait du monde. On ne travaille pas dans la restauration et les transports routiers à Atlantic City sans rencontrer des gens. Un de ses amis d'enfance, Rolly Lamber, était aujourd'hui à la tête du crime organisé dans la région de Camden. Dell s'était adressé à lui pour qu'il l'aide à retrouver son fils. Il savait qu'il signait un contrat avec le diable, mais ça lui était égal. Lambert lui avait dit qu'il mettrait des hommes à lui sur l'affaire et lui conseilla d'embaucher deux experts freelance, les meilleurs dans leur domaine. Il l'avait averti de ne pas être trop choqué par leur apparence. Dell avait aussi contacté Goldberg, bien connu pour fournir des tuyaux moyennant finances. Il était hors de question qu'il se croise les bras pendant que les flics cherchaient son fils. Dell savait que, plus tôt dans la journée, Ken et Barbie avaient localisé une effeuilleuse qui se faisait sauter par Carlton. Tonya ou Tony, quelque chose comme ça. La police avait déjà interrogé cette fille, mais sans en tirer grand-chose. Ken et Barbie avaient eu plus de succès. « Vous connaissez une ville qui s'appelle Castleton ?» demanda Ken. Dell réfléchit.
« C'est dans le nord, hein ?»«
C'est ça. »«
Je ne crois pas y être déjà allé. »
Et quelqu'un du nom de Pierce, David ou Megan Pierce?
Non, ils ont quelque chose à voir avec mon fils.
Ken et Barbie lui firent le rapport sur leurs activités du jour. Ils n'expliquèrent pas comment ils avaient obtenu ces informations et Dell ne posa pas de questions. Il se borna à écouter tandis que son cœur saignait et durcissait tout à la fois. Durcissait surtout.
Vous pensez qu'il risque d'y avoir un retour de manivelle ?
Ken regarda Barbie, puis Dell.
Du côté de Tony ?
Non.
Du côté de Harry Sutton ?
Oui, mais ils ne remonteront jamais jusqu'à nous.
Ni vous ?
Ajouta Barbie. Là encore, Dell n'insista pas.
Et maintenant ?
Normalement, nous suivons la piste.
Répondit Barbie comme si elle récitait un rôle. Le rôle de quelqu'un de beaucoup plus âgé.
Dans le cas présent, cela voudrait dire interroger monsieur et madame Pierce.
Dell ne dit rien. Et, reprit Ken, quitter Atlantic City pour Castleton, ce qui revient à élargir le périmètre.
Et à ajouter aux dommages collatéraux,
dit Barbie. Dell gardait les yeux rivés sur la fenêtre.
Vous êtes venu demander mon autorisation ?
Oui.
Vous croyez que les Pierce savent quelque chose ?
À mon avis, la femme, oui, dit Ken. Elle a rencontré le lieutenant Broom aujourd'hui, et ce, en présence d'un avocat. Cet avocat étant Harry Sutton.
Donc elle a des choses à cacher,
renchérit Barbie. Dell repensa à sa visite au poste de police.
Quoi que cette Megan Pierce ait pu la raconter, Broom s'en est servi. Il est allé au parc avec une équipe technique, ils ont trouvé du sang.
Il y eut un silence.
Les Pierce ont-ils des enfants ? Demanda Dell.
Oui, deux.
Tâchez de les maintenir en dehors de ça.
C'était, il le savait par expérience, le geste le plus charitable qu'il puisse consentir.
Megan mit 2 heures pour rentrer chez elle. Dave avait récemment équipé la voiture d'une radio satellite, si bien qu'elle essaya pendant un moment d'écouter Howard Stern. Un jour, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans la voiture, Howard avait baratiné une stripteaseuse nommée Triple S, et Megan avait failli sauter au plafond, car elle avait reconnu la voix de Suzanne Schwartz, une fille qui avait travaillé au crème. Elles avaient même partagé un appartement. Howard était certes un excellent compagnon de route, surtout durant les longs trajets en solo, mais au bout de quelques minutes, Megan coupa la radio et s'absorba dans ses pensées. Il était presque 1 heure du matin lorsqu'elle arriva devant la maison. Celle-ci était plongée dans le noir, à l'exception d'une lampe surminuterie dans le séjour. Elle n'avait pas prévenu Dave qu'elle rentrait. Elle ne savait pas quoi lui dire, comment répondre aux questions qu'il ne manquerait pas de lui poser. Elle avait espéré que ces 2 heures de route l'aideraient à s'éclaircir les idées, mais elle en était toujours au même point. Elle avait tout envisagé, depuis l'invention pure et simple, une amie, je ne peux pas te dire qui, a un problème personnel, jusqu'à la vérité nue. Tu ferais mieux de t'asseoir. En passant par « J'étais à Atlantic City, mais il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. » Alors même qu'elle se garait dans l'allée, qu'elle laissait tomber la clé dans son sac, qu'elle refermait doucement la portière pour ne réveiller personne, elle n'avait toujours pas la moindre idée de ce qu'elle dirait à l'homme dont elle partageait la vie depuis 16 ans. La maison était silencieuse, presque trop silencieuse, selon l'expression consacrée, comme si les briques et les pierres flambant neuves retenaient leur souffle. Ce calme la surprit. Malgré l'heure tardive, Megan pensait que Dave serait debout, attendant son retour, assis dans le noir ou alors en train de faire les 100 pas. Mais il n'y avait aucun signe de vie. Elle monta sur la pointe des pieds. La porte de Jordan était ouverte. On l'entendait respirer. Comme la plupart des gamins de son âge, Jordan, quand il s'endormait enfin, sombrait dans un sommeil de plomb et seul un miracle pouvait le réveiller. Il gardait toujours sa porte ouverte et, à 11 ans, laissait encore sa veilleuse allumée. Megan distingua le requin naturalisé au-dessus de sa tête. Allait savoir pourquoi, Jordan vouait une véritable passion pour la pêche. Ni elle ni Dave ne s'y étaient jamais intéressés de près ou de loin, mais le beau-frère de Dave avait emmené Jordan avec lui quand il avait 4 ans et le gamin avait attrapé le virus. Pendant un temps, le beau-frère l'avait entraîné dans ses parties de pêche, puis il avait divorcé de la sœur de Dave et ce fut la fin. Du coup, au moins 2 fois par an, Dave organisait un week-end de pêche entre hommes, qu'on aurait pu taxer de sexiste, vu que les femmes n'étaient pas invitées. Mais Megan et Kaylee préféraient le mot « gratitude ». Tantôt c'était la pêche à la mouche dans le Wyoming, tantôt la pêche à la perche en Alabama, et l'an dernier, la pêche au requin, au large de la Géorgie. D'où le trophée en question. Comme d'habitude, la porte de Kaylee était fermée. Elle n'avait pas peur du noir, mais de l'intrusion dans son intimité. Depuis peu de temps, elle bataillait, il n'y avait pas d'autre mot, pour convertir le sous-sol récemment achevé en chambre pour elle, histoire de mettre le plus de distance possible entre sa personne et le reste de la famille. Et tandis que Megan lui opposait un non ferme et définitif, Dave commençait à faiblir. Son excuse habituelle sonnait comme une plaidoirie. Elle va bientôt partir de la maison, et il faut savoir céder sur les petites choses. Avec le peu de temps qu'il nous reste, à quoi bon alimenter les conflits ? Megan se risqua à tourner la poignée et pousser la porte de sa fille. Kaylee dormait dans sa position favorite, sur le côté, avec son pingouin en peluche judicieusement appelé « Pingouin ». Kaylee dormait avec Pingouin depuis qu'elle avait 8 ans. Ça faisait sourire sa mère. On avait beau jouer les adultes, revendiquer son indépendance vis-à-vis de papa et maman, ce bon vieux Pingouin était là pour rappeler que les parents avaient encore du pain sur la planche. C'était bon d'être à la maison. Au bout du compte, Megan n'avait rien fait de mal. Elle avait fourni des informations importantes à Broome et regagné son foyer, sans encombre. Pendant qu'elle traversait la maison à pas de loup, Atlantic City reculait de plus en plus dans le rétroviseur. La seule chose qui l'avait légèrement ébranlée, ce fut d'avoir revu Ray, avec Lucie en toile de fond. Cette brûlure familière, elle l'avait ressentie pendant tout le trajet du retour. Mais il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. À quoi bon nier le désir qui l'électrisait, lui donner l'impression d'être branché sur une prise de courant de 100 000 volts ? Était-il déloyal d'admettre qu'elle n'éprouvait rien de tel avec Dave ? Ou était-ce normal, au bout de tant d'années de vie commune ? Était-il déloyal d'avoir ce genre de pensée ? Elle aimait Dave. Elle donnerait sa vie pour lui et les enfants sans une seconde d'hésitation. N'était-ce pas, au fond, la définition du véritable amour ? Et, réflexion faite, n'était-elle pas en train d'idéaliser ses souvenirs d'Atlantic City ? Le passé, on a tous tendance à l'embellir, ou alors, au contraire, à le repeindre en noir. Elle arriva à leur chambre à coucher. La lumière était éteinte. Dave était-il là? Ou peut-être était-il sorti? Cette idée ne l'avait même pas effleurée. Son mari devait être perturbé, il y avait de quoi. Si ça se trouve, il était parti, ou il était allé noyer son chagrin dans un bar. Mais en pénétrant dans la chambre, elle sut que c'était impossible. Dave n'aurait pas abandonné ses enfants, surtout en temps de crise. Une nouvelle vague de culpabilité la submergea. Elle distinguait à présent ses silhouettes dans le lit, et il lui tournait le dos. Meghan redoutait sa réaction et, en même temps, elle était soulagée. Elle sentit soudain que la page était définitivement tournée. 17 ans plus tôt, Stuart Green avait menacé de la tuer. Autant que la nostalgie, c'était ce qui l'avait poussé à revenir sur les lieux de son ancienne vie, la peur que Stuart soit toujours en vie, qu'il soit de retour. Mais Lorraine avait dû se tromper. De toute façon, elle avait fait de son mieux. Elle avait pris la bonne décision et elle était à la maison maintenant, saine et sauve. C'était terminé, ou presque. La question qui l'avait hantée sur le chemin du retour, qui la hantait depuis 16 ans, lui apparut soudain d'une clarté limpide. Elle ne pouvait plus continuer à se taire. Elle allait tout dire à Dave, en espérant que, après toutes ces années, l'amour finirait par triompher. Ou bien était-ce un leurre? Un de plus? D'une manière ou d'une autre, Dave avait droit à la vérité. Dave?
Ça va?
Il ne dormait pas. Elle déglutit, luttant contre les larmes. Oui, ça va. Toujours le dos tourné, il dit
« Sûr ?»
Oui. Meghan s'assit au bord du lit. Elle n'osait pas se rapprocher davantage. Sans se retourner, Dave rajusta son oreiller, se recoucha. « Dave ?» Pas de réponse. Elle toucha son épaule et il eut un mouvement de recul. « Tu veux savoir où j'étais ? » fit-elle. Il ne disait rien, ne la regardait pas. « Ne te ferme pas, s'il te plaît. »«
Meghan ?»«
Oui. »«
Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. »
Il finit par se tourner vers elle, et la douleur qu'elle lut dans ses yeux lui fit l'effet d'un électrochoc. Les mensonges ne seraient pas de mise, les paroles non plus. Alors elle fit la seule chose possible, elle l'embrassa. Il s'écarta, puis l'empoigna par la nuque et l'embrassa à son tour, avec force, avant de l'attirer à lui. Ils firent l'amour longuement, sans un mot. Lorsqu'ils eurent terminé, complètement épuisés l'un et l'autre, Meghan s'endormit. Dave aussi, mais elle n'en fut pas certaine. C'était comme s'ils habitaient deux mondes différents.